L'expression est tellement connue qu'elle nous a inspiré le titre de ce podcast. Le French Lover, c'est cette image du français séducteur, ce mythe du romantisme à la française. Un cliché dont le cinéma américain s'est vite emparé et qui l'a fait perdurer. Pendant longtemps, c'est surtout à ce type de rôle que les Français ont été cantonnés. Alors aujourd'hui, quand on est français et qu'on travaille aux États-Unis, est-ce qu'on est toujours associé à ces stéréotypes ? Peut-on seulement jouer des rôles écrits pour des Français ? Comment c'est d'être français à Hollywood ? Vous écoutez Hollywood French Lovers, une série audio réalisée par SoFilm en partenariat avec la plateforme de VOD Universiné. Universiné, tout un monde de cinéma.
Hollywood French Lover.
Hollywood, on l'appelait The Continental Lover.
Hein? Hollywood French Lovers.
En dehors de quelques virages, on va prendre par Hollywood Way.
Hollywood French Lovers.
Épisode 3. Baguette, galanterie et stéréotypes, nos Français bien-aimés. Inception, Minuit à Paris, The Immigrant, Marion Cotillard a su être adoptée par les Américains. En 2015, elle est invitée sur le plateau du Late Show, animé par Stephen Colbert, pour faire la promo du film Macbeth de Justin Kersel. Le présentateur la reçoit et lui dit:
"What I love about French is anything you say in French sounds so much more elegant and sexy and kind of profound, you know?"
Alors, il lui propose de jouer à un jeu. Things that sound way more intriguing when said in French. Soit, les choses qui semblent bien plus intrigantes lorsqu'elles sont dites en français. Il lui fait lire des phrases en français et en donne ensuite la traduction en anglais au public.
Je vous jure, je n'ai aucune idée de ce qui se passe à la fin d'Inception.
For the life of me, I have no idea what's going on at the end of Inception.
Puis, ils mangent tous les deux une baguette, béret sur la tête et accordéon en musique d'ambiance. Certes, c'était il y a presque 8 ans, mais ça donne une petite idée des images associées aux Français lorsqu'ils viennent en visite aux États-Unis. Et ces clichés, on les retrouve souvent dans leur rôle au cinéma.
Nos croissants ?
Non, monsieur.
Oh, you call this coffee ?
I call this America.
Comme dans cette scène avec Jean Reno dans Godzilla de Roland Emmerich en 1998. Au-delà des croissants et des baguettes, d'autres stéréotypes restent associés aux Français dans les films. Un classique, les Français sont sexy, classe et élégants. En témoigne par exemple le nombre de James Bond girls françaises. Corinne Cléry, Carole Bouquet, Sophie Marceau, Eva Green, et bien sûr, last but not least, Léa Seydoux.
Please excuse me, Mr. Bond. My name is Dr. Madeleine Swann. Our job today is to analyze your needs, both psychological and physical.
Sounds pretty straightforward.
I hope you don't mind. The view can be distracting.
I hadn't noticed.
Léa Seydoux ou Marion Cotillard ont justement cette réputation d'incarner l'élégance à la française. Égérie Louis Vuitton ou Chanel, dans l'imaginaire collectif, elles sont associées à la haute couture, au raffinement, au charme français. Et comme dans James Bond, on le ressent souvent dans leur rôle au cinéma. Avant elles, il y a eu Isabelle Huppert ou encore Catherine Deneuve, et encore plus tôt, Simone Signoret, qui en 1960 a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Les chemins de la haute ville de Jack Clayton.
Oh, I thank you so much. I wanted to be very dignified and all that. I can't. You can't imagine what it is for me being French. You can't imagine. And I want to thank Jimmy Wolf and Jack Clayton and Lawrence Harvey because it looks a little corny to say that, but you know that without them, I wouldn't have never been here tonight. Thank you so, so much.
Dans ce film, elle incarne une actrice française, déjà mariée et plus âgée, qui deviendra la maîtresse du personnage principal et avec qui il vivra une histoire d'amour impossible et passionnée. Pour les actrices françaises, le stéréotype, c'est plutôt celui de la bourgeoise, séduisante et élégante. Pour les acteurs, c'est l'image du French lover, du séducteur. On l'a vu dans l'épisode 1. Le premier, c'était Maurice Chevalier. Ensuite suivi par ses camarades Louis Jourdan et Charles Boyer. Jordan Mincer, journaliste Hollywood Reporter, explique que dès les années 30, les acteurs eux-mêmes s'amusaient à jouer des clichés.
Charles Boyer, c'est un acteur qui exagérait. C'est un peu comme on dit que Jane Birkin exagère son accent d'anglaise quand elle parle français. Boyer faisait pareil quand il parlait anglais, comme en Frenchie. « Do you want to come with me to my house tonight ?» Tout était exagéré, mais il ne parlait pas comme ça.
« You saved my life, you know. I was bored to tears. I haven't seen one attractive girl on this boat since we left. Can you imagine ?»
9 days like that? Oh, this is terrible.
That's not for me. I should be bright. I should be beautiful and bubbling like pink champagne. I got scared.
Un exemple dans cet extrait d'Elle et lui, le chef-d'œuvre de Léo McCarey, en 1939. Un mélodrame où Boyer joue un playboy français qui fait la cour à une chanteuse de cabaret sur un bateau qui va de l'Europe aux États-Unis. Dans la foulée, Boyer est nommé aux Oscars pour son rôle de truand français dans Casbah de John Cromwell. Des années 30 aux années 60, il enchaîne les rôles, tournant jusqu'à 6 films par an. Pareil pour Marcel Dalliot, qui a vite compris quel était le meilleur moyen de trouver du travail.
Donc Dalliot, il voit qu'en fait, c'est ça qui séduit les Américains. C'est pas le vrai français, mais c'est le fantasme hollywoodien des Français. Donc en fait, après la guerre, quand il va retourner régulièrement à Hollywood faire des rôles, il dit c'était n'importe quoi. Je pourrais tout jouer tant que c'était français, tant que j'exagérais mon accent. Ils s'en fichaient de la réalité du rôle.
Maître d'hôtel, parachutiste, magistrat, pêcheur breton ou même Clémenceau, tant que c'est un Français, Dalliot peut tout jouer, contrairement à ses débuts en France.
L'ironie dans la carrière de Dalliot, c'était qu'il fuit la France parce qu'il était typiquement juif et il était à la tête des affiches de propagande antisémite en disant « voici une tête de juif, c'est la tête de Marcel Dalliot ». Puis il arrive à Hollywood et il peut essayer de jouer quelqu'un de typiquement français. Jusqu'à jouer Clémenceau, alors ce qui est complètement ridicule. Donc je crois que c'est plus ça qui intéresse Hollywood, c'est le côté un peu exotique de l'accent, de la présence. Donc il raconte dans son livre, il dit « À Hollywood, j'étais plus français que je ne le serais jamais. » Lorsque je voyais Charles Boyer, Louis Jourdan, Jean-Pierre Aumont, oui, un autre acteur qui avait une carrière là-bas, je comprenais l'engouement des Américains pour mes camarades. À mes yeux, comme au leur, Charles, lui et Jean-Pierre symbolisaient une certaine conception du français avec son charme, sa légèreté et ses attitudes un peu ridicules.
La représentation la plus parlante de la conception du français dont Dalliot parle, c'est sûrement Gigi de Minelli, en 1958. Une comédie romantique musicale chez les aristocrates parisiens à la Belle Époque, où se retrouvent à l'écran les trois acteurs français les plus en vogue de Hollywood. Maurice Chevalier, Louis Jourdan et Leslie Caron, une actrice qui, elle aussi, a construit sa carrière aux États-Unis à partir des années 50.
Gaston, do you make love all the time?
I beg your pardon?
Do you make love all the time?
Good heavens, no. The only people who make love all the time are liars.
Hmm.
Was that the subject of your lesson today?
How did you know I was having a lesson?
I just came from your house.
Huh.
Avec 3 Golden Globes et 9 Oscars, ce film culte a largement marqué les esprits et les représentations à la fois de la France et des rôles qu'on pouvait accorder aux acteurs français à Hollywood. 2 ans plus tard sortait Le Milliardaire de George Cukor, film où Marilyn Monroe, icône suprême de Hollywood, joue une danseuse qui vit une histoire d'amour avec un homme d'affaires incarné par Yves Montand, ici l'archétype parfait du French lover.
Why do I like you?
You just love. My embrace's cold. They'll fit like a glove. We could get down to cases made.
À noter que, à la suite du tournage du film, l'actrice et le chanteur ont réellement vécu une courte idylle ultra médiatisée. alors même que Montand était en couple avec Simone Signoret, qui remportait son Oscar la même année. Cet épisode digne d'un mélo hollywoodien n'a alors rien arrangé à la réputation des Français.
Hollywood French Lovers.
C'est donc de tout cet historique dont héritent les Français qui se lancent à Hollywood. Alors certes, c'était il y a des décennies. Et Hollywood, depuis, a évolué, notamment ces dernières années. Mais forcément, cet imaginaire reste très prégnant dans l'inconscient collectif des Américains.
C'est vrai qu'il y a un stéréotype qui existe toujours aujourd'hui, quand on voit des séries plutôt, Emily in Paris, qui se passe en France, on voit qu'il reste des images très stéréotypées de la France à Hollywood, aux États-Unis. Et en fait, ils aiment bien voir la France comme ça.
Des clichés auxquels peuvent se heurter les acteurs et les actrices français quand ils arrivent aux États-Unis. Gilles Marini raconte qu'au début de sa carrière, il a dû subir quelques réflexions.
Où c'est difficile d'encaisser, c'était les Pépé les Pew, le Frenchie. C'était très. C'est un peu dénigrant. Donc c'était un peu rébarbatif. Et à un moment, tu veux pas péter les plombs parce qu'ils comprendraient pas les gens. Mais regarde, t'as tout pour toi, t'es un beau mec, tu réussis, je peux me foutre de ta gueule, s'il te plaît. Tu vois, c'était un peu plus ça que je ressentais souvent. Donc il y avait de la négation à ce niveau-là, parce que les gens, ils sont pas habitués à des choses qu'ils ne voient pas tous les jours.
Et, surtout à ses débuts, il a souvent endossé des rôles de Casanova. Comme dans Sex and the City, qui lui avait valu, rappelez-vous, une foule en délire après la première projection. S'il a d'abord occupé ce type de rôle, c'est aussi parce qu'il y avait un créneau à prendre.
Pour moi, quand j'ai commencé aux États-Unis, littéralement, il n'y avait pas de français. C'était un peu un truc... bien sûr, il y a eu Gigi en 1930, où il y avait le Chevalier et tout ça. Mais ce n'était pas quelque chose où le français était vraiment recherché. Où j'étais un peu seul. Donc c'était un peu bizarre pour moi, peut-être, avoir un boulot. Est-ce que il fallait que qu'il trouve quelque chose d'exotique. Et ils l'ont trouvé avec Sex and the City. Parce que j'avais un peu un look plus grec, italien, français avec un accent qui n'était pas vraiment très Frenchy. Parce que moi, j'ai fait mes classes ici, donc j'ai entendu l'intonation américaine. Donc mon accent, il est un peu plus unknown. Tu ne sais pas vraiment. L'américain pur, il entend, il te demande, t'es français, mais il se pose la question. Donc j'avais un peu cet avantage-là de pouvoir jouer un peu plus de rôles que prévu.
Plus que des rôles de français, ce sont les rôles d'étrangers qui sont d'abord accessibles.
C'est passé de « il est français » à « il est italien »,« il est algérien »,« il est espagnol ». Beaucoup d'Italiens, c'est sûr. Non seulement parce que je parle un peu la langue, évidemment, mais c'est tellement facile de prétendre à l'audience américaine ou anglaise, anglo-saxon, surtout, que je suis italien ou espagnol. L'intonation, ils ne comprendront pas. Et ils se diront, oh, ouais, pourquoi pas.
Ne pas être américain et avoir un accent peut donc être un vrai plus pour certains projets et pour se différencier. Astrid Bergès-Frisbet, pour son deuxième film aux États-Unis, High Origins de Mike Cahill, se rappelle.
Donc c'est vrai que ça peut aider à certains moments d'être justement connoté comme étrangère. Sur le film de Mike Cahill, c'était un vrai plus que je sois étrangère et que je ne parle pas bien anglais, parce que je ne parlais pas bien anglais encore à ce moment-là, parce que ça donnait... On a même accentué des erreurs de prononciation ou de langage pour servir le propos du film, en tout cas pour servir le personnage et lui donner plusieurs dimensions. En fait, ça nous a carrément permis de d'étoffer le personnage linguistiquement.
Lizzie Brocheret, elle aussi, est plusieurs fois tombée sur des réalisateurs et des auteurs intéressés par l'idée d'avoir des personnages d'origine française.
Les rôles que j'ai eus, souvent, les gars qui étaient les créateurs aimaient les Françaises. Et donc, du coup, ils trouvaient ça très chouette que le personnage parle et un petit mot de français. Ils trouvaient que ça ajoutait un cachet incroyable. Ouais.
sans forcément que ces personnages aient initialement et spécifiquement été écrits pour une interprète française.
Pour American Horror Story, c'était un rôle de... c'était ouvert à tout, je crois. Mais c'était... Non, ils ont vu du monde. Mais à la base, c'était le rôle d'une Américaine. Après, ils ont changé son nom de famille, ils en ont fait une Française. Souvent, à partir de là, j'ai eu beaucoup de rôles qui étaient écrits comme ça, et puis qui, du coup, se sont retrouvés à être Française quand je les avais. Ça, c'était chouette. Française ou indéterminée, voilà.
Vous vous rappelez quand Lizzie racontait comment elle avait travaillé son accent sans relâche?
J'étais un peu déçue, parce qu'à la première lecture qu'on a faite, Ryan Murphy m'a dit « Mais il est où ton accent français? Mais fais-moi ton accent français, là, quand même, c'est chouette, ton accent. » Du coup, j'ai dû refaire un accent français.
Si on a pu lui réclamer quelques fois son accent français, Lizzie a réussi à échapper à l'image stéréotypée de la Française.
Moi, j'avais envie de faire des personnages complètement... un peu monstrueux, un peu... ça me plaisait, des personnages... un peu fous, un peu monstrueux. Et c'est vrai que la Française, parfois, elle a une image un peu, justement, élégante, classe. Et j'avais pas trop envie d'aller là-dedans, moi, forcément. Comme j'étais plutôt dans les séries de genre, d'horreur, de science-fiction, de choses comme ça, t'es souvent en train de devenir un monstre ou de tuer ton père à la hache ou d'avoir une langue énorme qui sort de ton corps. T'es pas la Parisienne chic, quoi. Donc, j'ai pas du tout souffert de ça.
L'actrice et réalisatrice Julie Delpy a elle aussi l'impression d'avoir pu occuper un panel de rôles assez différents, sans devoir toujours jouer la Française de service. Pour autant, malgré des années sur place et un anglais parfait, elle ne pouvait pas tout jouer non plus.
Par exemple, je ne pouvais pas jouer une white trash texane, c'était moins évident, mais même avec mon physique, de toute façon, c'était évident que ce n'était pas possible. Tu vois, je ne pouvais pas faire une nana du Midwest hyper américaine. Je pouvais jouer... Des choses un peu plus neutres ou des choses des grandes villes, mais je pouvais pas vraiment jouer. Mais c'était pas que mon accent, hein. Là c'était aussi mon physique, hein. J'ai pas un physique je pense qu'à l'époque j'avais pas un physique banal, quoi, pour une américaine. Peut-être pour une française oui, mais pour une américaine je faisais pas une américaine banale, et donc je pouvais pas avoir ces rôles là tout simplement.
I hate when I'm in a foreign country, especially in America, they're the worst. Each time I wear black or like lose my temper or say anything about anything, you know, they always go, oh, it's so French, it's so cute. I hate that, I can't stand it, really.
Dans la très célèbre comédie romantique Before Sunrise de Richard Linklater, elle joue par exemple une étudiante française. Le succès de cette romance avec Ethan Hawke, qui joue un jeune américain, a été tel que Linklater a réalisé deux suites. Before Sunset et Before Midnight.
Hollywood French Lovers.
Depuis les années 90 où Julie Delpy s'est lancée à Hollywood, les choses ont un peu bougé. En très peu d'années, les acteurs eux-mêmes reconnaissent observer un changement dans le type de rôle accordé aux personnes non-américaines. Jimmy Jean-Louis est arrivé à Hollywood à la fin des années 90. Et à l'époque, il n'avait pas vraiment ressenti que venir de France était un avantage.
C'était aucun avantage. Tout était des avantages. Parce qu'à l'époque, ils ne considéraient pas trop le reste du monde. Il fallait uniquement être américain. De temps en temps, tu trouveras des scripts qui incluent des personnages qui viennent d'ailleurs, mais ça, c'était très très rare. C'est de nos jours que ça se fait presque quasi normalement, que l'Amérique accepte que dans le pays, il y a des gens qui nous viennent de partout. Si tu vas à New York, tu entends tous les accents du monde. Pareil pour Miami ou Los Angeles ou San Francisco. Alors que dans le film, tu n'entends aucun de ces accents. Enfin, au moins, tu n'entendais aucun de ces accents. Donc, je pense que le cinéma se rapproche un petit peu plus à la réalité. Donc, du coup, il y a plus de rôles pour des gens qui viennent d'ailleurs. Mais c'est bien, c'est ce que ça devrait être.
Jimmy Jean-Louis explique avoir lui-même très à cœur que les rôles ne soient plus forcément associés à des nationalités spécifiques inscrites dans le scénario.
Et moi aussi, j'ai beaucoup travaillé à ce qu'on, à ce qu'on juste qu'on m'accepte, quoi. Je veux dire, parce que des fois, je peux porter des rôles plutôt importants et des discussions avec les réals ou les écrivains. Est-ce que c'est nécessaire de mettre une nationalité au personnage? Est-ce qu'il peut pas juste exister comme je le vois exister dans le monde naturellement?
Et ça, pas plus tard que pour son dernier film, The Detective Knight.
Pour le dernier film avec Bruce Willis, sur papier, le personnage s'appelait, c'était un nom très, très Irish, comme Ian McBride. Et puis, quand je parlais avec le réalisateur et le scénariste, vu qu'ils étaient intéressés à travailler avec moi, mais j'aurais aussi proposé de changer le nom. Non pas pour lui donner une identité, mais pour être un petit peu plus ouvert aussi, pour qu'on puisse aussi entendre ces genres de noms. Donc, c'est pour ça qu'il me semble que le nom de mon personnage, c'est Détective Sango. Détective Sango.
Gilles Marini, lui aussi, constate cette évolution qui se serait accélérée avec l'avènement des plateformes de streaming.
Je pense qu'à un moment, ils acceptent que tu viennes de notre pays et puis c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais ça, c'est vachement venu avec les plateformes. C'est devenu un monde un peu plus international où c'est pas la peine de dire à quelqu'un 15 fois « It's okay, il vient du Zimbabwe, it's okay, c'est normal. C'est un humain et qui est dans une série, point final. » Et je trouve ça extraordinaire. Ça va aider tellement de gens de pouvoir casser ces barrières, d'être campé en tant que... Bon, il joue le rôle du beau gosse, ou il joue le rôle du méchant, ou il joue le rôle du terroriste, ou tu vois. C'est devenu un monde un peu plus différent où on accepte les gens en tant qu'humains plus que je te mets une étiquette sur le front, quoi.
Depuis les années 30, les Français à Hollywood ont surtout joué des Français. Il y a bien sûr l'accent, qu'il est difficile de perdre, mais il y a aussi un fort goût des Américains pour les représentations assez stéréotypées de ce qu'est la France, le romantisme, la gastronomie, etc. Pour autant, à force de travail, la plupart de nos Frenchies ont réussi à s'éloigner de ces rôles caricaturaux, jusqu'à maintenant jouer des personnages qui ne sont pas spécifiquement écrits pour être Français. Ces dernières années, Hollywood se décharge doucement de la montagne de stéréotypes sur lesquels l'industrie s'est construite. Si les Français sont bien loin d'être la première communauté à souffrir des clichés et du manque de représentativité à l'écran, ils remarquent eux aussi que les lignes bougent. Les plateformes notamment contribuent à faire voyager les œuvres dans le monde, à diversifier les contenus et les productions, et donc à normaliser la présence à l'écran de personnages venus de tous les horizons, au reflet de la société américaine. Même si, c'est vrai, il reste encore beaucoup de travail. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons plutôt à l'autre côté de l'Atlantique, à notre cher cinéma français. Nos expatriés nous raconteront leur rapport à ce pays qu'ils ont quitté, souvent provisoirement, et nous expliquerons l'impact de leur départ sur leur carrière et leur vie, ici, en France. C'était le 3e épisode de la saison 2 d'Hollywood French Lovers, une série audio by Sofilm.